Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Mosuma pour le journal.
Après plus de 20 ans de leur déploiement en RDC, le contingent pakistanais de la MONUSCO quitte le pays. Il s'agit du premier rang des troupes de l'ONU déployées dans le sud Kivu. Une cérémonie a eu lieu dans ce sens hier dans leur camp à Kavumu, 32 km de Bukavu. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas installé. Ce, malgré l'organisation des primaires de l'Union sacrée. Le président du groupe parlementaire de l'opposition dénonce le blocage des institutions pour des intérêts jugés individuels et invite le chef de l'État à s'assumer comme garant du bon fonctionnement des institutions. Et puis, criminalité à Goma au nord Kivu. Dans la perspective de trouver une solution à ce problème, une vingtaine d'actions sont recommandées aux autorités militaires notamment. C'est à l'issue de 3 jours d'échanges avec le Conseil restreint de sécurité. Pour en parler, nous recevons Placide Nzilamba, acteur de la société civile locale. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 20 ans après leur déploiement en République démocratique du Congo, les casques bleus de la République islamique du Pakistan s'apprêtent à quitter le pays. Ce contingent occupe en termes d'effectifs le premier rang des troupes de l'ONU déployées dans la province du Sud Kivu. Les troupes pakistanaises ont conduit plusieurs opérations militaires visant à protéger les populations civiles et à maintenir la paix et la sécurité dans cette province. Rachel Kiesse nous en parle dans ce reportage.
Depuis 2003, date de leur premier déploiement, des milliers de casques bleus pakistanais ont servi dans le sud Kivu et 31 parmi eux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en quête de la paix. La chef de la MONUSCO a partagé son émotion au Pakistanais Bintou Keïta.
Au cours de leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, les troupes pakistanaises ont perdu 31 soldats qui ont donné leur vie pour la paix en République démocratique du Congo. Je voudrais juste vous dire mon émotion personnelle en ce moment.
Le retrait des casques bleus pakistanais est marqué par leur bonne collaboration avec les populations locales. Le ministre Sisawa Numbe, représentant du gouverneur du Sud Kivu.
Il faut signaler que votre travail a eu des zones de succès et notre province vous en restera reconnaissante. Pour autant qu'au-delà de la mission de maintien de la paix, vous avez également réaliser, participer à quelques projets de développement par-ci par-là dans la province et pour lesquels nous tenons à vous exprimer notre gratitude entière.
Tout compte fait, à compter d'aujourd'hui, la MONUSCO transfère la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils aux forces de défense et de sécurité de la RDC qui continueront à assumer cette responsabilité en étroite coordination avec les communautés et les autorités locales. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Par ailleurs, la population du territoire de Kabare et au sud qui vous loue les relations et la bonne collaboration avec les casques bleus pakistanais qui se retirent de la province. Une cérémonie a été organisée hier dans leur camp à Kavumu, 32 km de Bukavu. La présence de ces casques bleus avait ramené la paix dans ce coin. C'est du moins ce que pense la société civile de Kabare. Leonidas Tabaro, président de cette structure, l'a dit à Rachel Kiesse.
Nous, ici à Kabare, nous avons accueilli ces contingents de la MONUSCO et les relations étaient très très bonnes. Nous n'avons pas eu beaucoup de plaintes de la part de la communauté. On vivait ensemble et sans inquiétude. Nous avons loué d'ailleurs leur bravoure parce qu'il y a eu quand même la paix relativement. À certains endroits ici chez nous à Kabare, nous n'avons pas eu beaucoup de soucis. Et à tout moment qu'il y a eu des plaintes de la part de la communauté, surtout la communauté riveraine du Penkabé, la MONUSCO intervenait, ses contingents intervenaient, ils mettaient leur vie en danger pour sauvegarder la population autochtone. Et ça, nous avons loué et nous sommes en train de regretter leur départ. Nous remercions surtout les Nations Unies, aussi les pays contributeurs qui nous ont dotés de ces contingents, qui nous ont quand même aidés à un peu rétablir la paix en RDC. Et nous disons merci et la population congolaise reste très reconnaissante, surtout aussi la population du territoire de Kabare, parce que nous sommes à Kabare, elle reste très très reconnaissante des gestes de la sécurité assurés par ces contingents de la MONUSCO.
Dans un communiqué publié à cette occasion, la chef de la MONUSCO a également réitéré que le retrait de la mission onusienne du Sud Kivu n'est pas synonyme du départ des Nations Unies de la RDC. C'est une reconfiguration de la présence de l'ONU en soutien au peuple et au gouvernement de la RDC. Après le départ de la MONUSCO, les agences, fonds et programmes des Nations Unies continueront à fournir un soutien en relation avec leurs mandats respectifs. Au Nord Kivu, 4 écoles primaires et secondaires ne fonctionnent plus à Roussamambu depuis plus d'une semaine. C'est dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale. Selon un notable du milieu, ceci est consécutif à des menaces de la part de certains cadres du groupe armé NDC Rénové. Il parle notamment des écoles primaires Ikobo et Roussamambu, ainsi que des instituts Roussamambu et Salama. À la suite d'un présumé recouvrement forcé d'une taxe mensuelle illégale imposée par cette milice locale, le 17 avril dernier, quelques enseignants auraient été arrêtés. Depuis, la tension persiste dans la zone. John Mouemeri plaide pour une solution urgente. Il est joint par Bernardin Nyangui.
C'est maintenant plus d'une semaine que les portes des écoles ne sont fermées suite à une situation de recouvrement forcé des jetons par nos forces patriotiques qui sont dans ces coins, qui ont débordé en faisant aussi payer les enseignants. Alors, nous sommes en train de mener un plaidoyer auprès des autorités du mouvement afin de relever les troupes qui sont là-bas, parce que ce sont des troupes qui ne collaborent pas étroitement avec la couche de la communauté. Parce qu'imaginez arriver à tabasser même les enseignants dans les classes suite au jeton, vraiment ça a causé une honte, mais aussi un aspect qui n'est pas vraiment du tout bon. Mais aussi au gouvernement de songer comment, à un moment donné, renforcer tout ce qui est par les militaires qui peuvent protéger la population et ses biens. Parce que c'est l'absence des noms militaires dans les coins qui cause presque tous ces problèmes-là.
Des sources proches de ce mouvement armé, NDC de Guidon, rejettent ces accusations. Elles parlent plutôt d'un conflit foncier qui opposerait les dix enseignants à d'autres membres de la communauté locale. Pendant ce temps, plusieurs enseignants de la zone ont fui le milieu. En Ituri. Je disais qu'en Ituri, signalons l'ouverture officielle hier par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, du dialogue intercommunautaire pour la paix durable dans cette province. Il est arrivé à Bunia, accompagné du vice-ministre de la Défense, Sami Adubango. Toutes les 21 communautés de l'Ituri, les confessions religieuses et des membres de la société civile prennent part à ces assises. Je vous le disais en titre, 2 jours après l'organisation des primaires de l'Union Sacrée, au cours desquelles Vital Kamerhe est élu candidat président de l'Assemblée nationale, le calendrier électoral pour l'installation du bureau définitif n'a toujours pas été publié. Le président du groupe parlementaire de l'opposition dénonce le blocage des institutions pour des intérêts jugés individuels et invite le chef de l'État à s'assumer comme garant du bon fonctionnement des institutions. En réaction, le député Crispin Mbindoulé explique le retard dans la publication du calendrier pour l'élection des membres du bureau définitif par l'attente de la publication de la liste définitive des députés nationaux. Michel Kifindangoy.
Le député Crispin Mbindoulé de l'Union Sacrée explique le retard dans le lancement du processus d'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale par le fait que le bureau provisoire attendait la publication des listes définitives des députés après correction des erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Crispin Mbindoulé.
On ne pouvait pas organiser les élections sans avoir la liste définitive des députés. Il y a eu des erreurs matérielles qu'on a corrigées. On nous a encore renvoyé d'autres députés qui nécessitent d'être validés pour qu'ils participent aussi aux élections du bureau définitif.
Pour le président du groupe parlementaire de l'opposition, ce retard qui occasionne le blocage de toutes les institutions du pays est dû à l'inconscience de certains responsables de l'Union Sacrée. Christian Moindo.
L'insécurité est partout. On a des problèmes d'eau, d'électricité, de salubrité. Ça fait 10 jours qu'on a commencé le processus avec le partage des postes au niveau du bureau. Pourquoi le bureau ne publie pas le calendrier? Parce que le déroulement de vote va nous prendre encore une semaine. Donc, on aura perdu comme ça 7 mois.
Christian Moindo invite donc le président de la République à prendre ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions.
Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales siégeant en matière de contrôle de conformité au cours de son audience publique d'hier. Après examen, elle juge fondées les requêtes des présidents des bureaux provisoires des assemblées provinciales lui soumises en appréciation de la conformité à la Constitution. Il s'agit des provinces de Sankuru, Kwilu, Sud-Kivu, Tanganyika, Nord et Sud-Ubangi, Chuapa, Mongala, Équateur, Haut et Bazuele, Kasai, Kasai Central, Okatanga, Lualaba, Olomami, Maniema, Ituri, Maindombe, Kwango et Congo Central. Par ailleurs, la CENI annonce qu'il n'y aura pas d'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs le 29 avril 2024 dans 5 provinces. Intervenant dans Dialogue entre Congolais hier, le directeur des opérations de la centrale électorale explique que le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège, mais aussi parce qu'une partie du Nord Kivu est occupée par le M23. Le Nord Ubangi et le Kwilu sont aussi concernés puisque la CENI avait annulé les élections respectivement à Yakoma et Masimanimba. Enfin, Jason Senda précise que la province de l'Équateur, elle, organisera ses élections le 7 mai prochain, puisque le vice-premier ministre de l'Intérieur a accordé hier soir l'autorisation pour la reprise des activités à l'Assemblée provinciale. Cela après avoir suspendu le 2 avril dernier les activités de cet organe délibérant. À Kalemie, entre-temps, le Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika a organisé une série de consultations avec les candidats gouverneurs. D'après le premier vice-président de cette structure qui s'est confié hier à Radio Kapi, l'objectif est de faire ressortir le profil d'un bon candidat qui pourra relever les défis dans la province du Tanganyika. Paulin Munanga.
Albert Sangwachenge, premier vice-président du Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, indique qu'ils sont allés à la rencontre des candidats gouverneurs pour échanger avec eux sur la vision qu'ils ont de la province du Tanganyika. Et c'est dans différents domaines. Albert Sangwachenge exprime sa satisfaction après les consultations.
L'objet utile au milieu de nos rencontres entre jeunes et candidats gouverneurs, c'était d'écouter chaque candidat. Nous nous sommes présentés devant les résidences, nous les avions cherché. Pourquoi? Parce qu'il y avait urgence, il fallait que nous puissions avoir un profil idéal pour la province du Tanganyika. Nous avions écouté les projets de société de tout un chacun et après, la jeunesse a statué sur l'exposé de chaque candidat et nous avions dégagé à l'unanimité un candidat qui remplit le profil urgent actuellement pour la province du Tanganyika et quelqu'un que la jeunesse a vu qui peut vraiment relever le défi au niveau de la province du Tanganyika.
Signalons que sur 5 candidats gouverneurs du Tanganyika, 3 ont été consultés, un ne se trouve pas encore dans la ville de Kalemie et un autre n'a pas été disponible. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans l'enseignement, un peu plus d'une semaine nous sépare des épreuves hors session de l'examen d'État. Dans la province de l'Équateur, le directeur provincial de l'EPST Équateur 1 hausse le ton. Il veut, selon lui, mettre fin à des mauvaises pratiques en vue d'améliorer les résultats de ses candidats. C'est l'objectif de la réunion tripartite, chef d'établissement, parents et élèves finalistes du secondaire, réunion tenue hier à Mbandaka. Le compte-rendu de Paul-Richard Malengela.
D'entrée des jeux, le directeur provincial de l'EPST Équateur 1 n'a pas caché son amertume, car à la veille de la dissertation, plusieurs élèves finalistes de secondaire brillent par l'absentéisme au cours, la jouissance et l'extravagance, ce qui les pousse à exiger plus de frais que les 95 000 francs congolais fixés par l'arrêté du gouverneur. Pour Hervé Mungui-Tamakoule, les dispositions de passation des hors sessions de l'examen d'État sont claires.
Les élèves ne doivent pas s'amener avec de l'argent au centre. Ils ne peuvent pas avoir un téléphone. Tous les élèves, les modèles de cheveux restent les mêmes, pas de fantaisie. Une paire, la gomme est simple, pas de chaussettes. Aussi, ils doivent terminer avec des frais, parce que nombreux se cachent derrière ces frais pour aller aux enchères.
Quant à la plupart des élèves, ce rappel à l'ordre du proverbe est tombé à point nommé.
Les élèves qui ne veulent pas participer au cours, ce sont eux qui feront en sorte que nous arrivons à échouer.
Nous avons dit que ces élèves-là, qu'ils laissent ce qu'ils font, parce que ça peut donc dénigrer l'école.
Je ne vais pas aussi m'inquiéter pour m'acheter une nouvelle chemise comme nous a déjà donné la tenue. Je peux même porter mon ancien uniforme, il n'y a pas de problème.
Les parents, ils ont apprécié l'initiative mais ils se disent sceptiques quant à l'application. Voilà pourquoi le prophète de Mongeta a promis d'entamer une itinérance de ce lundi à travers les écoles en vue du strict respect de ces dispositions. Bon, d'accord, pour Chamalengui, la radio Okapi.
province du Kwilu, plus d'un million de cas de paludisme ont été enregistrés en 2023, dont près de 500 000 chez les enfants de moins de 5 ans, environ 1000 décès, parmi lesquels 545 enfants. Ces statistiques ont été révélées hier, 25 avril, en marge de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre provincial de l'EPST, qui a représenté le gouverneur de province, l'a fait savoir lors d'une cérémonie organisée à cette occasion. Irène Mbouma, reportage.
La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée avec faste et abandon d'Ouville par la division provinciale de la santé du Kwilu en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Au cours de la dite cérémonie tenue à la salle paroissiale Saint-Hippolyte, le conférencier André Guipoy a entre autres déclaré que le paludisme est une menace pour la santé publique au Kwilu. À l'occasion, le chef de division provinciale de la santé du Kwilu a invité toutes les parties prenantes à s'impliquer dans la lutte contre cette endémie qui entraîne plusieurs conséquences. Docteur Jean-Paul Matela.
À tous ceux qui sont ici et à la population de la province du Kwilu qui s'approprient de la lutte, nous appelons tous les personnels de santé à garantir la disponibilité des services de lutte contre le paludisme à travers la disponibilité des médicaments ainsi que la bonne gestion des intrants mis à leur disposition.
Il s'est de noter que cette journée a été lancée par le ministre provincial de l'EPST au nom du gouverneur des provinces empêchées. Bien avant cette cérémonie, une caravane motorisée a été organisée sur les artères principales de la ville de Bandundu dans le but de sensibiliser la population contre la malaria. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Plus de 100 prisonniers ont fui un établissement pénitentiaire près de la capitale nigériane. C'est à la suite de fortes pluies qui ont endommagé certaines parties de l'infrastructure pénitentiaire. Les autorités rapportent qu'au départ, 118 détenus se sont évadés de la prison de Suleja et que 10 personnes ont ensuite été reprises. Une chasse à l'homme à grande échelle est en cours pour retrouver les évadés restants. Un communiqué des autorités pénitentiaires assure la collaboration avec d'autres agences de sécurité pour faire face à cette situation.
L'invité.
Les autorités militaires sont appelées à lancer des offensives afin de récupérer toutes les entités occupées par le M23 et permettre le retour des déplacés dans leurs milieux respectifs. C'est l'une des principales recommandations formulées mercredi à Goma par les acteurs sociopolitiques à l'issue des échanges de 3 jours avec le Conseil restreint de sécurité. Dans la perspective de trouver une solution à la criminalité à Goma, une vingtaine d'actions ont été recommandées aux autorités. Pour en parler, nous recevons Placide Nzilamba, acteur de la société civile locale. Il s'entretient avec Sifa Maguro.
Placide Nzilamba, bonjour. Vous prenez part à une série de réunions mixtes de sécurité qui regroupent les autorités et la société civile et d'autres composantes. Pouvons-nous savoir en quoi vous avez été capacité en tant que leader local sur la problématique de l'insécurité dans la ville de Goma et ses alentours?
La séance de renforcement des capacités qui s'est organisée dans le cadre des réunions successives sur la situation sécuritaire en ville de Goma et ses alentours a consisté d'abord à esquisser les notions sur la gouvernance sécuritaire et il faudrait faire comprendre l'assistance qui est composée des responsables des services de sécurité, du comité provincial de sécurité, des représentants du comité territorial de sécurité de Nyiragongo, du comité local de sécurité de la commune de Goma, de la commune de Karisimbi, et aussi les représentants de la société civile au niveau provincial, les représentants des structures communautaires et de représentants des déplacés de guerre. Il était nécessaire pour que nous puissions avoir un regard commun sur ce qu'on appelle la gouvernance sécuritaire. Ce sont les premières notions qui ont été présentées. En deuxième lieu, on nous a capacité sur le diagnostic sécuritaire, comment il se réalise, comment déterminer un problème sécuritaire, comment déterminer les causes de ces problèmes et puis déterminer les actions à mener pour résoudre ce problème. Et de trois, c'était l'exposé sur les triangles sécuritaires qui regroupent les acteurs qui doivent participer à la sécurité. sécurité dans un état démocratique comme le nôtre actuellement. Normalement, les acteurs au niveau de la sécurité sont au nombre de trois. Il s'agit d'abord du gouvernement lui-même, il s'agit aussi des forces vives, et il s'agit aussi des pourvoyeurs de la sécurité. Ce sont là les trois acteurs qui étaient dans la salle, qui sont concernés par le triangle la sécurité. Et que ce triangle veut que tous ces acteurs soient en harmonie, soient en collaboration pour créer une harmonie dans les actions sécuritaires qui doivent être menées.
Et la réunion proprement dite, en quoi elle a consisté? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les discussions?
Il s'agit de la réunion mixte élargie de sécurité qui a été ouverte par son excellence monsieur le vice-gouverneur représentant le gouverneur de province, qui a expliqué un peu comment la situation sécuritaire se présente ici en province Nord Kivu. Et après cette situation, il a aussi laissé la place au conseiller spécial du gouverneur en charge de la sécurité, qui a conduit maintenant l'aspect méthodologique et pédagogique. Et le conseil spécial a été appuyé par le coach national et le coach provincial qui viennent des départements de sécurité ici et même de la société civile. Et les participants ont été répartis dans le carrefour où ils ont commencé maintenant à faire le diagnostic de la situation sécuritaire ici en ville de Goma et ses environs. Et maintenant, aujourd'hui, il s'est agi aussi de poursuivre ces travaux dans des grands carrefours où doivent sortir maintenant les recommandations en forme des actions amenées par toutes les parties pour que la paix et la sécurité reviennent rapidement ici en ville de Goma.
À quoi la population peut s'attendre comme résolution ou mesure qui sortira de cette série de réunions ou d'échanges avec les autorités?
Je dirais que la population doit s'attendre à la définition des actions qui pourront être mises en œuvre pour endiguer ou même réduire sensiblement l'insécurité qui fait rage en ville de Goma avec des tueries, cambriolages, avec des cas de viol, avec des cas de torture. C'est dans ces contexte que nous nous retrouvons parce qu'il se relève que même la population a un grand rôle à jouer pour endiguer cette insécurité. Nous pensons qu'à l'issue de ces assises, nous allons produire des recommandations qui seront coulées en forme d'action que toutes les parties vont mener pour essayer de faire face à cette insécurité qui gangrène aujourd'hui la ville de Goma et ses environs.
Merci.
Placide Nzilamba, acteur de la société civile à Goma, répondait aux questions de Sifa Maguru. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Alain Rung Mushinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.